Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Célier, bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. Ce soir, l'événement, c'est sur RTL. Après 6 mois dans l'espace, Thomas Pesquet est de retour sur Terre et il se confie en exclusivité dans RTL Soir. Son incroyable mission, la redécouverte des plaisirs simples, le réchauffement climatique vu du ciel, son objectif Lune, l'astronaute se livre, grand entretien, il sera notre invité de 18h15. On reviendra avec lui également sur la guerre des étoiles. La France accuse la Russie de saccager l'espace après un tir de missile hier sur un satellite. D'ailleurs, les remplaçants de Thomas Pesquet dans la station internationale ont été mis à l'abri en catastrophe. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Mon épouse a travaillé à mes côtés, c'est incontestable. Son nom a été jeté en pâture. Les mots de François Fillon cet après-midi dans son procès en appel, défense de sa femme, les démentis de tout emploi fictif. Dans ce journal aussi, l'insécurité en plein cœur de ville à Lyon. Et des commerces obligés de s'adapter. Et puis une semaine après l'allocution d'Emmanuel Macron, les prises de rendez-vous pour les rappels anti-Covid multipliées par 2. Les courses dans le Quintet Plus à Saint-Cloud, il fallait jouer le 13, le 10, le 4, le 9 et le 11.
Après 18h30, laissez-vous tenter par le nouveau film avec Pierre Ninet à l'île Maurice. À 18h40, on va défaire le monde, vos 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Signy et la fine équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Quel est le programme?
Ce soir, on défait le monde, va rester dans l'espace. Puisque vous découvrirez comment les débris spatiaux menacent nos télécommunications. Et puis au menu également, reportage Céline en immersion au Congrès des maires où... Comment les élus se font draguer parfois lourdement par les candidats à la présidentielle.
La bataille de l'espace, on y reviendra aussi à 19h15. On refera le monde avec Éric Brunet. Et puis des points réguliers sur le temps avec vous. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance?
Encore bien nuageux demain, sauf près de la Méditerranée.
On détaille tout ça dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal, Julien Célier, Marion Calais.
Une démonstration de force et une condamnation unanime. Moscou s'attire les foudres de la communauté internationale.
Pour le tir de missile hier sur un de ces vieux satellites, opération qui a généré des débris et contraint les astronautes de la Station Spatiale Internationale à se réfugier dans un vaisseau pour une éventuelle évacuation. La ministre des Armées, Florence Parly, s'en est prise sur Twitter aux saccageurs de l'espace et son porte-parole, Hervé Grandjean, enfonce le clou.
C'est une action à l'évidence déstabilisatrice, irresponsable et qui peut avoir des conséquences de très longue durée sur l'environnement spatial, sur nos satellites, sur les vols habités. On a en ce moment même des astronautes qui sont dans la Station Spatiale Internationale. Donc c'est un comportement tout à fait irresponsable de la part des Russes que la France condamne avec la plus grande fermeté.
Alors de Paris à Washington, en passant par l'OTAN, l'affaire est donc devenue diplomatique. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. Cette opération russe, elle fait craindre une nouvelle guerre de l'espace.
Oui, un retour de ce qu'on appelait la guerre des étoiles dans les années 80, quand Ronald Reagan voulait déployer un bouclier anti-missile soviétique, un projet colossal finalement abandonné. Alors avec ce tir, la Russie envoie sans doute un message de puissance à destination du rival américain, en sous-titre « Nous sommes toujours là ». Il y a donc une crainte de militarisation de l'espace, alors que Washington et Moscou coopèrent plutôt bien dans le spatial civil. Le meilleur exemple, bien sûr, c'est la Station Spatiale Internationale. Preuve du sérieux de cette affaire, la NASA et ses homologues du Roscosmos doivent échanger aujourd'hui. Il faut notamment établir la trajectoire des débris, anticiper d'éventuelles collisions avec la station spatiale ou avec des satellites de communication essentiels. Pour terminer, il faut préciser que ce tir anti-satellite n'est pas une première. La Chine, l'Inde et les États-Unis l'ont déjà fait. Ce qui inquiète, c'est la soudaineté et le manque d'anticipation sur les conséquences.
Lionel Gendron aux États-Unis pour RTL. On reviendra bien entendu sur ce dossier spatial avec notre invité événement dans quelques minutes, Thomas Pesquet de retour sur Terre qui va se confier en exclusivité dans RTL Soir.
Et à l'étranger, toujours ces nouveaux affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan près de la région du Karabakh, un an après le conflit qui avait fait 6500 morts. Bruxelles appelle à la désescalade.
Il l'avait dit hier, François Fillon s'est donc exprimé aujourd'hui au deuxième jour de son procès en appel pour les emplois présumés fictifs de son épouse et de ses enfants.
L'ancien Premier ministre Anne Le Hennaff qui maintient que son épouse Pénélope a bien travaillé à ses côtés mais qui exprime aussi des regrets.
Oui, des regrets, ce mot qu'il n'avait pas prononcé en première instance. François Fillon a levé le doigt pour prendre la parole. Quand j'ai été élu à l'Assemblée en 1981, la moitié des députés employaient leur conjoint ou un membre de leur famille. La moitié. J'ai des regrets de ne pas avoir compris suffisamment tôt que la pratique de ces emplois familiaux suscitait la suspicion. Ce qui me blesse, poursuit l'ancien Premier ministre, ce sont ces 40 années de vie politique effacées par un article d'un journal satirique et par une enquête à charge. Car sur le fond, François Fillon maintient fermement sa ligne. Sa femme a été payée pour son travail. J'ai des regrets pour mon pays, poursuit-il, privé d'un débat démocratique en 2017, et des regrets pour mon épouse. Rien ne pourra jamais effacer la violence de ce qu'elle a subi avec une dignité exemplaire, dit-il en la regardant. Sur son petit banc, Pénélope Fillon fixe le président. Elle est interrogée depuis plus de deux heures maintenant sur la réalité de ce travail, bien difficile à démontrer.
Récit d'audience d'Anne Le Hennaff pour RTL. Il est prêt à témoigner, Éric Abidal, dont le nom est apparu dans l'enquête sur l'agression de la joueuse du PSG, Keira Amraoui, attend désormais d'être convoqué pour répondre aux questions qui lui seront posées. C'est ce que dit ce soir RTL son avocat, Maître Olivier Martin.
Le nom d'Éric Abidal circule dans ce dossier. Je lis et j'entends que on veut l'entendre et qu'on veut lui poser des questions, ce dont je prends note. Si on souhaite l'entendre et lui poser des questions, il sera bien évidemment totalement d'accord pour répondre à toutes les questions qu'on lui posera, et spontanément, délibérément. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça intervienne le plus rapidement possible. Il nie toute implication directe ou indirecte dans les faits qui font l'objet de l'information judiciaire aujourd'hui.
Maître Olivier Martin, l'avocat d'Éric Abidal, joint par Thomas Proutot pour RTL. De nouvelles accusations de viol formulées contre Benjamin Mendy, le footballeur français déjà incarcéré pour des affaires similaires. Il est désormais visé par 6 chefs d'accusation de viol et 1 d'agression sexuelle. Voilà une décision qui interpelle des commerces obligés de modifier leurs horaires et leurs pratiques à cause de l'insécurité. Nous sommes là dans le centre-ville de Lyon, quartier de la Guillotière.
Où une célèbre enseigne de fast-food ne fait plus désormais que de la vente à emporter et où le supermarché Casino a été contraint d'avancer de 2 heures sa fermeture. Les 5 agents de sécurité n'ont pas suffi. Les tensions sont trop fortes, comme l'a constaté le correspondant de RTL sur place, Frédéric Perruche.
Il ne faut pas s'attarder longtemps devant l'entrée du casino pour assister à la première bagarre.
Ouais, c'est entre eux là-bas, c'est comme ça qu'ils commencent à voler les gens toute la journée. Et les gens ne peuvent même pas marcher là.
Des bagarres tout le temps?
Mais bien sûr. Mais tout le temps et toute la journée. Hein.
Une bagarre entre vendeurs à la sauvette, souvent des sans-papiers, une bonne centaine sur la place où l'on trouve de tout. Cigarettes de contrebande, vêtements, téléphones, drogues, ce qui crée une insécurité permanente, explique cette cliente à la sortie du magasin.
C'est vrai qu'à la tombée de la nuit, il y a souvent des agressions, des bagarres. Ma maman s'est déjà fait voler son téléphone, il y a des sacs arrachés. Donc je comprends que ça se ferme plus tôt.
Du coup, impossible pour Casino d'ouvrir après 17h à la tombée de la nuit pour des raisons de sécurité. Malgré les interventions quotidiennes des policiers, explique ce commerçant dépité.
Ils viennent tous les jours, effectivement. Ils restent 1 heure, 2 heures. Ça se passe bien, ils s'en vont. Donc le marché est démantelé. Mais une fois que la police part, ils reviennent de sitôt, et 2 fois plus.
Depuis le début de l'année, 800 personnes ont été interpellées sur la préfecture, mais rien n'y fait.
Frédéric Perruche, quartier de la Guillotière à Lyon pour RTL.
Allez, votre journal se poursuit dans un instant sur RTL avec le nouvel effet Macron. Vous allez l'entendre sur les prises de rendez-vous pour les piqûres de rappel anti-Covid. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Allez, la suite de votre journal comme promis, 18h09, vous écoutez RTL. Près de 100 000 par jour, les prises de rendez-vous pour les doses de rappel ont doublé depuis l'allocution d'Emmanuel Macron la semaine passée.
Bonsoir Agathe Landais.
Bonsoir.
La ruée sur la troisième dose se confirme de la part des plus de 65 ans et des plus fragiles.
Oui, avec 800 000 rappels injectés juste la semaine dernière, c'est 33% de plus que la semaine précédente. Le ministère de la Santé se félicite de cette accélération, boostée donc par l'appel du chef de l'État. Dès le lendemain de l'allocution, 200 000 injections effectuées et plus de 750 000 rendez-vous sont déjà réservés pour des rappels dans les prochaines semaines. Reste quand même quelques points noirs. Les moins de 65 ans qui souffrent de comorbidité et les soignants, ils ne sont que 31% à avoir reçu leur rappel. Mauvais chiffre aussi pour ceux qui avaient reçu une dose Janssen. 38% ont fait leur injection.
Oui, c'était le fameux vaccin unidose. D'ailleurs, les personnes vaccinées au Janssen ont désormais une échéance. Si elles n'ont pas fait leur rappel au 15 décembre, eh bien là aussi, le pass sanitaire ne sera plus valable.
Oui, en fait, ce sera du coup comme les plus de 65 ans. Ce vaccin Janssen, vous l'avez dit, unidose, Un million de Français l'avaient reçu. Tous sont donc désormais éligibles à un rappel 4 semaines après la première dose. Et 700 000 ne l'ont pas encore fait, risquent donc de perdre leur passe sanitaire dans un mois.
Explication d'Agathe Landais pour RTL.
Et face au Covid en Allemagne, annulation annoncée aujourd'hui du marché de Noël de Munich, qui attire chaque année 2 millions de visiteurs. Elles devront être vaccinées, les handballeuses qui participent à partir du 1er décembre prochain au Mondial en Espagne devront avoir reçu leurs 2 doses. C'est la première compétition internationale à l'imposer. Et c'est une bonne chose pour le sélectionneur de l'équipe de France, Olivier Krombholz.
Franchement, en tant que coach ou même en tant que citoyen, je trouve ça tout à fait logique et tout à fait normal. On ne peut pas faire du sport de haut niveau actuellement sans prendre un maximum de précautions. Le sport de haut niveau a été menacé et reste menacé aujourd'hui. Il faut que les acteurs soient aussi responsables et s'organisent. Parce que le pire pour nous, c'est pas de se faire vacciner. Le pire pour nous, c'est de pas pouvoir pratiquer. Alors après, ce qu'on peut regretter, c'est le moment de cette décision. Quand même une preuve de manque d'organisation et d'incompétence de la part de la Fédération internationale.
Olivier Krombholz, le sélectionneur des handballeuses françaises, championne olympique, elle-même toute vaccinée. Il répondait à Isabelle Langer pour RTL. Et puis Finlande-France, un match pour bien finir l'année pour les Bleus du foot qui sont déjà qualifiés pour le Mondial 2022 au Qatar. Coup d'envoi 20h45 à suivre sur RTL.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et profitez-en, c'est la mairie qui régale à Strasbourg. 25 000 places de cinéma offertes aux écoliers. La mesure a été votée hier en conseil municipal pour soutenir le secteur affaibli par la crise du Covid. Ce sera même 2 places pour les élèves du réseau d'éducation prioritaire qui n'ont pas caché leur joie au micro de Yannick Holland.
Au cinéma, c'est plus grand, l'écran il est plus grand, les chaises sont plus confortables, et on passe un bon moment, on peut discuter du film entre nous, et moi j'ai hâte d'aller.
La dernière fois que je suis partie au cinéma, j'ai regardé La Famille Addams 2 avec ma mère, c'était trop bien. Et moi j'aimerais aller au cinéma avec ma sœur, et ma sœur a dit, on verra bien si j'ai de l'argent, et j'aimerais bien avoir un ticket.
Heureux ses enfants au micro RTL de Yannick Holland pour ces places dont ils pourront profiter week-end et vacances. Ce sera hors du temps scolaire, évidemment.
Tous au ciné, oui. Évidemment, c'est mieux quand même. Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps, Peggy, pour demain.
Peu de changements finalement, ça veut dire encore beaucoup de nuages avec quelques faibles pluies le matin par endroit. Sur le pourtour méditerranéen, en revanche, ça restera ensoleillé dès la matinée avec Mistral et Tramontane qui souffleront toute la journée, des rafales jusqu'à 90 km/h. Le temps sera instable en Corse avec des averses, voire un coup de tonnerre en matinée. Et dans l'après-midi, allez, retour de quelques éclaircies entre la Bretagne et le Nord. Pas d'évolution sur le reste du pays, donc bien gris, quelques pluies faibles du sud-ouest au nord-est et beau près de la Méditerranée. Les températures, elles ne bougent pas beaucoup. Les minimales de 4 à Nancy jusqu'à 10 à Caen, 7 à Toulouse et Nîmes, 9 à Paris. Les maximales de 8 degrés à Metz, à 18 à Nice, 9 à Lyon et Tarbes, 12 à Bordeaux, 13 à Paris, 15 à Rennes et Marseille.
Merci Peggy. Allez, une petite pause et puis l'événement sur RTL, grand entretien exclusif avec Thomas Pesquet. Après presque 200 jours en orbite, il raconte son incroyable mission sur RTL. On va revenir également avec lui sur ce conflit spatial déclenché hier par les Russes. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée. Ce soir, l'événement, c'est sur RTL. Après presque 200 jours dans l'espace, Thomas Pesquet, notre invité exceptionnel. Bonsoir Thomas Pesquet.
Bonsoir.
Vous êtes revenu sur la Terre ferme il y a une semaine. Vous êtes en ligne depuis Cologne, en Allemagne, depuis le centre des astronautes européens. Merci d'avoir choisi RTL pour vous confier, pour nous raconter cette incroyable mission. Vous avez passé plus de 6 mois dans cette station spatiale internationale. Le grand public s'est encore émerveillé devant vos photos de la planète vue d'en haut. Il a envie d'en savoir un peu plus, ce grand public. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous raconter vos premières impressions, sensations lorsque vous avez améri mardi dernier au large de la Floride, ce moment où vous avez retrouvé en quelque sorte l'air libre? Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous êtes sorti de cette capsule?
Ce qui m'a frappé pendant le retour vers la planète, c'est quand même un événement un peu violent pour nous. On flotte assez tranquillement dans la station pendant 6 mois, et puis tout d'un coup, ce retour, faut imaginer, c'est un peu le tour de manège ultime avec un freinage qui nous écrase vraiment pendant plusieurs minutes, beaucoup de succession d'événements plutôt dynamiques, les parachutes qui s'ouvrent, la capsule qui se balance, ensuite on frappe la surface de la mer. Donc tout ça, c'est assez physique, en fait, c'est même très physique. Et puis ensuite, peut-être le soulagement d'être être rentré, parce que mine de rien, tant que le parachute s'est pas ouvert, on n'a pas la certitude que tout va bien se passer. Ça se passe toujours bien en général, mais et ensuite, les sensations qui s'enchaînent, l'ouverture de la capsule, on sent l'air frais, on sent les gens qui viennent nous récupérer, qui sentent la lessive, le savon, des choses que vraiment ils ont un peu manqué pendant 6 mois. Ensuite, tout s'enchaîne très très vite. Hein. C'est un mécanisme très huilé. On est suivi par des médecins. Moi, j'étais ramené extrêmement rapidement en centre des astronautes à Cologne. Et puis ensuite, on se réadapte petit à petit à la vie normale, un processus que je suis encore en train de suivre en ce moment.
Alors justement, racontez-nous, comment vous vous sentez physiquement? Parce que c'est vrai que dans l'espace, vous avez perdu du muscle. À votre arrivée, on l'a vu, il a fallu vous porter, l'oreille interne était complètement déréglée. 8 jours après, est-ce que ça va mieux?
Oui, ça va très bien. Alors en fait, je me réhabitue même plutôt mieux qu'après la première mission. Enfin, la première mission, c'était bien passé, mais il m'avait fallu quand même une petite douzaine d'heures pour pouvoir me marcher sans avoir de vertige, me tenir droit sans avoir trop mal au dos, etc. Ça va beaucoup plus vite cette fois-ci. Je sais pas exactement pourquoi. Mmh. Peut-être qu'il y a une espèce de mémoire du corps. Peut-être que, je sais pas, j'ai fait plus de sport là-haut. Mais, mais en tout cas, tout va très bien. Après, à peine 2 heures après le retour, je marchais déjà, alors avec un peu d'aide, mais j'ai pas eu de vertige ou d'étourdissement comme ça m'est arrivé la dernière fois. Évidemment, il faut reprendre sa coordination. Donc, il y a énormément d'exercices physiques tous les jours. Mais le processus est bien enclenché. Je suis même plutôt en avance.
Et puis, vous avez retrouvé votre chez-vous, votre maison. Est-ce qu'il y a des petits conforts qu'on est heureux de redécouvrir? Vous avez parlé de la douche en conférence de presse. Ça, c'est étonnant, non?
Oui, mais pourtant, c'est un des conforts qui sont basiques sur Terre, auxquels on pense pas vraiment, mais qui nous ont manqué pendant 6 mois à bord de la station. Hein. Faut voir qu'on se... Alors, on est très propre. Hein. Faut pas non plus imaginer qu'on se lave pas pendant 6 mois, mais on se lave plutôt à la lingette, avec des linges mouillés, des choses comme ça, parce qu'évidemment, il n'y a pas vraiment l'eau courante dans la station spatiale. Puis de retrouver cette sensation-là, alors avec modération au début, parce qu'on a du mal à se tenir droit, surtout dans des espaces exigus. Donc, la douche, c'est typiquement le genre d'endroit où on pourrait tomber, perdre l'équilibre. Mais oui, rien que ça, être assis, c'est tout bête, mais être assis, être allongé, être dans un lit, avoir cette sensation du corps qui repose sur quelque chose, ça nous a manqué pendant longtemps. C'est des sensations qu'on redécouvre. Mmh. C'est plutôt sympa, en fait, de redécouvrir toutes ces sensations à l'âge adulte. C'est un peu rafraîchissant.
Revenons sur cette expérience incroyable dans l'espace. Pour la première fois, vous avez été un temps commandant de bord. D'ailleurs, c'était pas de tout repos. Il a fallu gérer une équipe de tournage de cinéma russe quelques jours. Et puis, vous avez affronté une situation d'urgence, une perte de contrôle accidentelle de l'orientation du vaisseau. Est-ce que vous pouvez nous raconter?
Oui, bien sûr. Alors, effectivement, le rôle de commandant de bord, ça consiste à veiller à ce que tout se passe bien en temps normal, hein, en fait, quand les choses se déroulent comme c'est prévu. Mais ça consiste aussi à prendre les choses en main dans les situations rares, hein, extrêmement rares dans l'histoire de l'ISS, où on a des alertes feu ou une perte d'orientation de la station, comme ça nous est arrivé. On n'a pas eu de chance, ça nous est arrivé 2 fois pour des raisons diverses, mais on va dire indépendantes de notre volonté, de notre action. Et à chaque fois, il a fallu récupérer. Donc, c'est une chorégraphie qui se met en place assez rapidement, en fait. C'est comme dans un avion, c'est comme dans un cockpit. On est entraîné, on a des procédures. Ça revient un peu naturellement comme un réflexe. Il faut juste donner un peu le tempo de tout ça, répartir les rôles de manière efficace. Mais au final, ce sont des choses qui ont plutôt bien passé. À peine une quinzaine de minutes après avoir perdu l'orientation de la station, on avait réussi à la récupérer avec l'aide des moteurs du côté russe. Voilà, l'espace, c'est pas facile, hein. Ça se passe bien 99,9% du temps, ce qui est déjà énorme et ce qui veut dire le travail investi par les équipes. Mais on se confronte à des environnements qui sont compliqués. On a des systèmes qui sont extrêmement compliqués. Donc, il y aura toujours des choses qui vont tomber en panne, qui vont pas exactement se passer comme prévu. Ce qu'il faut, c'est que le système, au global, soit capable de résister à ça. Et ça inclut, évidemment, les équipes au centre de contrôle, les équipages qui sont là pour réagir.
Pendant ces situations d'urgence, est-ce que vous êtes tellement entraîné que quelque part, vous passez en mode robot et vous suivez les procédures? Ou est-ce qu'il y a quand même une seconde ou deux d'appréhension, de stress?
Il y a une seconde ou deux d'appréhension ou de stress. La première fois que l'alarme rouge retentit, ou qu'on a une alarme de feu, ou que le centre de contrôle nous appelle en disant, voilà, cette fois, c'est pas l'entraînement, on a besoin de vous dans la procédure d'urgence. On se dit quand même, non, ça va pas m'arriver à moi, c'est pas pendant ma mission à moi qu'on va casser l'ISS. Donc, ensuite, la chance qu'on a, c'est que c'est un peu comme, je pense, c'est comme des musiciens, en fait, sur scène. Il y a un trac, il y a une appréhension, mais on retombe sur des choses qu'on connaît par cœur, qu'on a répété, qu'on a fait nos gammes. Donc, c'est vraiment ça qui permet, en fait, de désamorcer un peu les situations de stress. Et puis on essaie surtout de pas réagir trop hâtivement et de pas faire empirer la situation. C'est aussi beaucoup de calme dans l'urgence. Je pense que c'est la première qualité dont on a besoin.
Vous parlez de calme dans l'urgence. Hier, les astronautes de l'ISS ont dû se réfugier en catastrophe dans leur vaisseau, prêts à évacuer. Tiens, tendez l'oreille.
Station pour Houston. Il faut vous réveiller plus tôt. On vient d'apprendre qu'un satellite a été détruit. Il faut débuter les procédures d'urgence.
Safe Haven procedure. Procédure d'urgence parce que des milliers de débris se retrouvaient dans la zone. L'armée russe a admis aujourd'hui avoir envoyé un missile pour faire exploser un satellite. Le patron de la NASA se dit scandalisé. Il estime que Moscou a mis en danger vos remplaçants dans l'ISS. Vous êtes d'accord? Il y a eu danger, Thomas Pesquet?
Disons que c'est des événements qui arrivent pas souvent, malheureusement, et qui créent une certaine complication pour tout le monde. Alors, faut bien voir quand même que tous ces débris sont suivis au radar depuis le sol, qu'on prend énormément de précautions. Ouais. Ce avec quoi on travaille, c'est des probabilités. Quand la probabilité qu'un débris approche à moins de 10 km de la station, 5 ou 10 km, et à ce moment-là, on lance les procédures de protection parce qu'on veut vraiment une sécurité maximum. Donc 10 km, il y a quand même un petit peu de la place. On ne parle pas d'un nuage de débris qui a frôlé l'ISS, mais ce n'est quand même pas une situation dans laquelle on a envie de se trouver assez régulièrement. Et c'est pour ça qu'on a normalement des accords entre les agences et on va dire des règles, même si elles sont non écrites, qui font en sorte qu'on essaie de ne pas faire proliférer ce genre de débris en orbite, parce qu'au final c'est tout le monde qui en pâtit.
Il y a de plus en plus de débris dans l'espace. On s'interroge, est-ce qu'à terme c'est dangereux à la fois pour vous là-haut et peut-être pour nous aussi en bas?
Oui, il y a de plus en plus de débris parce qu'il y a de plus en plus d'activités. Mais comme j'expliquais un peu auparavant, en fait, maintenant on fait les choses de manière plus vertueuse. En fait, maintenant, en concevant des missions spatiales depuis le début, on pense à la fin de mission. On pense qu'il va falloir désorbiter les satellites en fin de vie. On ne veut pas les laisser éternellement sur des orbites un peu poubelles. On essaie de faire rentrer nos débris dans l'atmosphère, ce qui va les faire brûler. Ils toucheront jamais le sol, donc c'est pas spécialement dangereux pour la population. Mais ça nous permet d'évacuer un peu l'orbite basse. Je pense qu'on arrive un peu au pic de ce problème en ce moment, mais avec la prise de conscience qu'on a depuis quelques années et le fait que maintenant on en produit quand même énormément moins, à part malheureusement des événements un peu inattendus comme ça, je pense que ça va diminuer dans les années qui viennent et qu'on va arriver à avoir ce programme sous contrôle. Ouais.
Alors là, on évoque une pollution de l'espace. Vu d'en haut, vous avez constaté les effets d'une autre pollution. Lorsque vous vous êtes entretenu par vidéo avec Emmanuel Macron, vous avez notamment confié avoir aperçu très concrètement les effets du réchauffement climatique, c'est-à-dire... Qu'est-ce que vous avez vu ?
Je veux dire, par rapport à la première mission, la plus grosse différence, ça a vraiment été les phénomènes météorologiques extrêmes, en fait. Tout ce qu'on peut observer depuis la station, ça se voit vraiment très bien à l'œil nu. C'est les tempêtes tropicales, les cyclones qui suivent un peu à la queue leu-leu, malheureusement, dans le golfe du Mexique et dans l'Atlantique Sud. Quand il y en a un qui touche terre, il y en a déjà un autre qui est en train de se former dans les eaux chaudes du golfe du Mexique. Ça se voit très très bien, malheureusement. On passait quasiment de l'un à l'autre en une orbite de la station spatiale. On a assisté aux feux de forêt, évidemment, aux incendies en Méditerranée, au Canada, en Californie. On a vu vraiment des régions entières qui étaient recouvertes de fumée, enfin qui étaient obscurcies, on va dire, par la fumée. C'est des choses que j'avais pas vues pendant ma première mission. Évidemment, ma première mission, elle était en hiver, donc faut se méfier des comparaisons un peu trop hâtives, mais je pense quand même qu'il y a une augmentation assez nette de ce genre de phénomène. Ensuite, de toute façon, pour conclure scientifiquement, il faut pas juste se fier au regard un peu, on va dire, humain, émotionnel, biaisé qu'on peut avoir depuis l'orbite, mais on a des programmes de satellites dans l'Agence spatiale européenne, au CNES ou autre, qui nous permettent heureusement de conclure scientifiquement sur ces phénomènes.
Cette vision de notre planète qui souffre, ça a été une prise de conscience? Est-ce que ça vous donne envie de vous engager maintenant que vous êtes de retour sur Terre? On vous a vu commenter l'ouverture de la COP26 depuis l'espace.
Oui, j'ai toujours essayé de faire passer un petit peu ce message, surtout depuis ma première mission. En fait, la prise de conscience, elle a vraiment eu lieu pendant la première mission. Là, c'est des choses auxquelles, évidemment, c'est sûr que le voir avec son propre regard, ça fait un effet assez profond, mais ça n'a pas été une surprise comme ça l'a été pendant la première mission. Dès que je peux, je fais passer ces messages en dehors de l'agence, dans l'agence, auprès de la jeunesse, en France ou ailleurs. Je pense que je vais essayer de continuer à le faire. Je suis pas le seul à le faire. Je pense que maintenant, les gens ont de plus en plus pris conscience du problème et du challenge auquel on fait face. Et maintenant, c'est le moment de trouver des solutions et des actions au plus haut niveau, je pense.
Pour terminer, Thomas Pesquet, la suite, c'est quoi? Objectif Lune? Parce qu'à peine de retour sur Terre, vous avez rappelé que c'était votre rêve. Alors, on sait que les Américains veulent reposer un pied sur la Lune d'ici 2025. Vous êtes partant? Vous êtes candidat?
Oui, je suis candidat, mais je pense qu'on est tous candidats, en fait.
Je pense aussi.
Mes collègues européens vont aussi lever la main. Voilà, il va falloir faire un choix et ce sera pas moi qui le ferai, malheureusement. Mais non, je pense que l'Europe au sens large et les pays membres sont engagés dans ce projet-là, qui est un projet à long terme, en coopération avec nos collègues de la NASA, de l'Agence spatiale canadienne, sans doute, on l'espère, nos amis russes, nos amis japonais. Et on veut le faire pour des raisons vraiment scientifiques de découverte, avec une présence un peu plus permanente, un peu plus durable, en fait, en utilisant dans les ressources in situ sur la Lune. Donc ça, c'est vraiment un très 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 beau projet qui a déjà commencé. Hein. Il m'a pas attendu moi pour commencer ce projet. Évidemment, moi, je vais avoir à cœur d'apporter ma petite pierre à l'édifice, en espérant bien sûr peut-être faire partie des équipages qui partiront de destination la Lune dans quelques années. Hein. C'est demain, hein. C'est dans 4-5 ans peut-être. Mais en tout cas, d'y travailler au sol, ce sera déjà un grand plaisir. Ouais.
C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, de pouvoir se rapprocher de la Lune. Merci Thomas Pesquet d'avoir été notre invité ce soir sur RTL, d'avoir choisi RTL pour vous confier. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, si vous, les auditeurs de l'autre côté du poste, vous avez envie d'en savoir davantage sur cette aventure spatiale, j'en profite pour vous inciter à écouter nos chouettes podcasts, La Fabrique de l'Espace, sur l'appli RTL, réalisé avec le soutien de l'Agence Spatiale Européenne que vous connaissez par cœur, Thomas Pesquet. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur RTL.
Merci à vous.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr.
Allez, on va marquer une toute petite pause dans RTL Soir et ensuite toute autre chose. Laissez-vous tenter. Dernière, on va parler cinéma. Ce soir, on va vous emmener à l'île Maurice avec Pierre Ninet notamment. On va aussi vous rappeler les grands titres de l'actualité et vous rappeler les prévisions météo. Là, clairement, ce n'est pas l'île Maurice. Ça, tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
Bonne fin de journée, 18h32 minutes.
RTL Soir avec Julien Sellier.
Il est grand temps de refaire un point sur les titres de l'actualité. C'est avec vous, Marion Calais.
Au final, tout le monde en pâtit les mots ce soir sur RTL de Thomas Pesquet au sujet des débris spatiaux et notamment de ceux engendrés par le tir russe d'hier contre un de ses vieux satellites. À l'instant, l'Allemagne plaide pour des mesures urgentes pour renforcer la sécurité. Paris appelle ce soir au respect du cessez-le-feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Des affrontements ont opposé aujourd'hui des troupes des deux pays après un conflit l'an dernier qui a fait plus 6000 morts. Elle s'appelle Neige et grâce à elle et à ses congénères, on savoure raclette et autres tartiflettes depuis quelques jours. Cette vache de la race Abondance est l'égérie du prochain salon de l'agriculture. Ouverture le 26 février prochain.
Ça semble vous réjouir, Marion. Oui. Merci et bonne soirée. Le temps maintenant, Peggy, pour demain.
Et ben encore bien gris,
bien gris.
Oui, un ciel bien couvert sur l'ensemble du pays le matin avec quelques faibles pluies par endroits comme aujourd'hui, sauf près de la Méditerranée où ce sera ensoleillé avec beaucoup de vent. Dans l'après-midi, retour des éclaircies sur le nord-ouest. Elles vont gagner l'île de France uniquement en fin de journée. Pas de changement ailleurs, donc gris et humide du sud-ouest au nord-est et beau près de la Méditerranée. En Corse, par contre, le temps sera un sable de toute la journée avec des averses parfois orageuses le matin. Les maximales, généralement comprises entre 8 et 15 degrés, jusqu'à 18 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, laissez-vous tenter dernière. Bon, c'est bien temps d'aller justement au cinéma. Ça tombe bien, Stéphane Boutsock et Magie du cinéma est avec nous en studio. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Julien, bonsoir tout le monde.
On va profiter de vos jolis conseils comme souvent le mardi soir puisque demain sur nos écrans sort le nouveau film de la réalisatrice Nicole Garcia. Il s'appelle Amant, Amant au pluriel. Hein.
Alors, j'espère que vous aimez le chiffre 3. Voici une histoire d'amour bâtie en 3 actes sur un trio et durant 3 ans.
D'accord.
Je vous pose le décor.
Ça Lisa... dure pas 3 heures.
Non.
D'accord.
Les 2 heures du minimum syndical actuel.
D'accord.
Lisa et Simon, jeune couple noctambule et insouciant, vont être violemment séparés après une soirée qui tourne mal. Simon disparaît, Lisa refait sa vie, donc 3 ans passent, elle refait sa vie avec Léo, qui l'emmène en voyage à l'île Maurice. Et c'est là, au paradis, que Lisa va retrouver Simon par hasard. Leur passion, évidemment, est intacte. Elle va déclencher un processus implacable où le sexe, l'amour, le pouvoir et l'argent mènent le jeu. Amant est un thriller sentimental, un film noir remarquablement mené par Nicole Garcia. Et on y revient, ces 3 interprètes principaux.
Alors, qui sont ces 3 comédiens ?
Benoît Magimel est Léo, Stacy Martin est Lisa et Pierre Ninet est Simon. Après OSS 117 et Boîte Noire, il trouve la diversité de son talent, l'intelligence de ses choix aussi. Devant la caméra de Nicole Garcia, écoutez, il a vécu une expérience d'acteur parfois déroutante.
Je me rappelle une scène improbable où on est sur à l'île Maurice, sur la plage, et on tourne une scène d'amour, de retrouvailles très forte avec Stacy Martin. Et Nicole cherche, elle sait pas, non, je veux pas le filmer comme ça, peut-être comme ça, attends, ça c'est beau, non, alors fais ci, fais ça. Et vraiment, 8 mois plus tard, on se retrouve à Brie-sur-Marne, et j'arrive, et elle a recréé la plage dans un studio de Brie-sur-Marne. Et elle me dit, on va refaire la scène de la plage. Et vraiment, il y avait du sable partout, des palmiers et tout. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, Nicole? C'est fou. Et c'est génial en même temps. C'est quand même la folie qu'on adore au cinéma. Elle veut la perfection de ce qu'elle avait imaginé. Et donc, c'est génial. Donc il y a des bouts de l'île Maurice à ce moment-là, qui est magnifique en plus, et des bouts de Bry-sur-Marne, et on ne voit pas la différence, c'est ça qui est fort.
Voilà, ça super aussi, c'est anecdote. La magie du incroyable. Cinéma, on en parlait au début. Pierre Niney, donc, à l'affiche du nouveau film de Nicole Garcia, Amant, avec aussi Stacy, alors lui dit Martin, moi je veux dire Martine, et Benoît Magimel, vous verrez ça dès demain au cinéma.
Très bien, bah c'est noté, super conseil, merci beaucoup Stéphane, grâce à vous en plus on a découvert à quel point Bry-sur-Marne était exotique ce soir.
Terre de contraste.
Voilà, effectivement, merci pour ce joli conseil d'en Laissez-vous tenter. Dernière.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et la suite de RTL Soir maintenant, c'est On défait le monde, les 20 minutes de curiosité quotidienne garantie avec Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier qui s'installe. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
Avec vous, on va retourner en apesanteur. On en discutait avec notre invité événement Thomas Pesquet il y a quelques minutes. Les Russes ont déclenché les hostilités spatiales hier en détruisant un satellite. Que se passe-t-il exactement au-dessus de nos têtes, de vos têtes? Est-ce que l'espace est jonché de débris? Réponse juste après ça, tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.